soir, rentrer chargé sur les scènes parisiennes.
Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
Il est 20h sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous recevons Mathieu Boiliveau. Bonsoir Mathieu Boiliveau.
Bonsoir.
Vous êtes comédien et vous interprétez le personnage de Philin dans Le Misanthrope de Molière, qui est mis en scène par Thibaut Pernou. Ça se joue au Théâtre de la Bastille jusqu'au 20 décembre. On revient avec vous tout de suite. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de Gertrude, d'après Hjalmar Söderberg, c'est mis en scène par Jean-Pierre Barrault au Montfort, de Tempus Fugit, un spectacle du Cirque Plume qui était sous le chapiteau, qui est sous le chapiteau de la Villette, et de Dans la République du Bonheur, de Martin Krimp, c'est mis en scène par Élise Vigier et Martial Di Fonzobo au Théâtre National de Chaillot. Ce soir, nous vous proposerons également une carte blanche, une lecture d'extrait du texte de Clémence Weil, Pierre, ciseaux, papier. Et je laisse tout de suite la parole à Magali pour mener cette interview.
Oui, alors bonsoir Mathieu Boiliveau. Vous avez en fait, j'ai bien suivi, cofondé une compagnie avec le metteur en scène justement du Misanthrope Thibaut Pernou et... un troisième compagnon dont j'ai oublié le nom.
Guillaume Motte.
Guillaume Motte, la compagnie Cobalt. Exactement. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de ce fonctionnement, de son fonctionnement, de la genèse de cette compagnie.
Alors, la compagnie Cobalt existe depuis 2010. Nous sommes trois artistes, trois acteurs, deux metteurs en scène et un collaborateur artistique qui est Guillaume Motte, donc qui intervient sur les projets avec nous. Plutôt sur la dramaturgie, sur la direction d'acteur. Là, par exemple, il est assistant à la mise en scène de Thibaut sur Le Misanthrope. On s'est tous rencontrés, enfin tous les trois, au Conservatoire d'Avignon, là où on a fait nos études. Donc ça date, on est sortis en 2004, Guillaume et Thibaut en 2004 et moi en 2006. Donc voilà, c'est une histoire qui dure, c'est vraiment une rencontre de théâtre et on a souhaité se réunir pour travailler ensemble. Voilà, sur nos envies communes.
Et généralement, en fait, il y a quelqu'un d'entre vous qui a une idée de mise en scène et qui propose aux autres, du coup, le texte.
Oui, ça se passe plutôt comme ça. Après, ça, c'est le dialogue qui amène les choses. Il y a les envies de chacun. Là, par exemple, Thibaut a eu envie de monter Le Misanthrope. Il a réuni Guillaume dans le cocon dramaturgique pour aborder cette pièce, et moi je me suis retrouvé à jouer Philinte. C'est un fonctionnement de compagnie, les casquettes tournent entre Thibaut et moi, puisque là on a monté un spectacle au mois d'octobre qui s'appelle Mars, dont j'assure la mise en scène, et Thibaut est seul au plateau. C'est un solo, un monologue. Donc vous voyez, c'est le principe un peu de compagnie. Après, il y a d'autres projets, comme un projet qui s'appelle Gibier du Temps, où là, il y a 16 acteurs, et donc je suis en charge de la mise en scène, et il y a 16 comédiens au plateau, dont Guillaume, dont Marc, dont Thibaut. Voilà. C'est une famille de théâtre, en fait, quelque part, une équipe.
Et vous faites appel du coup à d'autres comédiens, d'autres camarades.
Oui, des gens qu'on a rencontrés, soit à Avignon, principalement à Avignon d'ailleurs, et puis après, au gré des rencontres, des expériences menées en tant qu'acteur ou dans les stages, ou voilà, des gens qui ont croisé notre parcours d'une manière ou d'une autre.
Et là, vous parlez tout à l'heure de votre camarade Guillaume qui était plus assistant et aussi dramaturge. Et justement, donc, dans Le Misanthrope de Molière, vous avez fait appel à une dramaturge.
Oui.
Et je crois que Chloé...
J'étais assez étonnée parce que c'est vrai que les dramaturges apparaissent de moins en moins dans l'univers théâtral, dans les créations. Et puis c'est vrai que vous êtes un groupe qui... vous êtes rencontrés à l'école, Le Misanthrope qui est un classique. Enfin, c'est toujours étonnant venant de la part d'une jeune compagnie qui pourrait être très avertie sur les enjeux, sur la dramaturgie de ce texte-là, de Molière. Et vous avez quand même fait appel à une dramaturge. Mmh. Et à quel endroit, justement, Thibaut, enfin vous tous, vous aviez eu besoin de chercher avec quelqu'un d'autre?
Mais je pense que c'était pas... Après, je parle au nom de Thibaut, parce que moi je suis acteur, même si on travaille ensemble et le spectacle se construit ensemble. Mais Alice était plus là sur aussi le... pas forcément sur les situations ou la compréhension de l'histoire, de ce qui se raconte, des situations, du rapport d'amitié ou du rapport amoureux, mais plus sur, par exemple, la réécriture de la scène des portraits, qui a été entièrement réécrite. Et là, c'est vraiment Alice qui a pris ce chantier en main et qui nous a fait des propositions qu'on a testées au plateau. On y est revenu, on a essayé d'autres choses. Voilà, elle était... oui.
Non, juste pour nos auditeurs, en fait, pour qu'ils comprennent mieux, en fait, qu'est-ce que la scène des portraits et en fait, est devenue après
la scène des portraits, c'est une scène dans le Misanthrope où Célimène fait le portrait de personnes qui, à l'époque de Molière, étaient dans la salle où la salle savait de qui on parlait au moment où Célimène disait, nommait et faisait le portrait. Donc ça nous paraissait, nous, très loin. Ces gens, on les connaît pas.
Des portraits plutôt sarcastiques.
Oui. Plutôt médisants. Ouais. C'est la belle médisance, mais ce qu'on fait tous, en fait. Donc voilà, nous, on avait l'envie de... Enfin, ça nous paraissait trop loin. On savait pas de qui la scène parlait. On savait pas de qui Molière parlait. On n'avait aucune affinité avec ces gens. Et ça nous paraissait être un milieu très loin. Très loin d'une autre, et on avait vraiment envie de s'inclure à l'intérieur de cette cour. Et donc on a réécrit la scène des portraits, donc Célimène fait les portraits, dans notre milieu, le milieu du théâtre, pour s'inclure aussi, pour pas juger un milieu extérieur très loin, mais plutôt pour dire on va parler de ce qu'on connaît et on va parler de notre cour. Et notre cour, c'est le milieu du théâtre. Voilà. Et Alice, qui est auteure de romans et aussi auteure dramatique, puisqu'elle écrit une pièce là qui s'appelle « L'homme est la seule erreur de la création », dans laquelle Thibaut, Guillaume et moi jouons au mois de janvier. Donc c'est vraiment une collaboration artistique aussi depuis longtemps et le désir de partager la dramaturgie et les choses du texte ensemble et la pensée sur le théâtre.
Et vous avez aussi inclus des petits intermèdes, toujours 21e siècle, en fait, au sein du texte de Molière. Ça peut être des petites interjections ou même la musique, oui, qui est très contemporaine. Vous avez travaillé, comment vous avez travaillé, en fait? Est-ce que c'est aussi un travail collectif sur le plateau, avec des improvisations?
Non, on part essentiellement des situations, de ce que le texte raconte et de ce qui se passe et de ce que les gens disent, les personnages disent. On part essentiellement de ça. Après, on voit comment on peut le traduire de la manière la plus honnête et la plus franche. Après, la musique, ce que vous appelez les intermèdes, tout ça, on est des trentenaires. Donc on fait le théâtre de notre temps avec ce que nous sommes et il n'y avait aucune volonté de moderniser Molière puisque Molière sera toujours moderne. Un chef-d'œuvre comme le Misanthrope, c'est intemporel. Le propos, la langue, c'est l'alexandrin, donc c'est déjà une langue étrangère, mais le fond est toujours aussi actuel et voilà. Donc non, c'était plus pour s'emparer de la pièce avec ce que nous sommes, en fait, des trentenaires. Et puis on écoute Rihanna, on écoute Sugar Hill, on écoute ces choses-là. Il faut dire que c'est ancré dans une fête qui n'aura pas lieu, puisqu'il y a un événement, Alceste déclenche un événement au début de la pièce, qui fait que la fête n'aura pas lieu. Et voilà,
c'est très étonnant parce que ça se met très en opposition avec un respect absolu de la langue, l'alexandrin, où tout d'un coup on arrive avec des choses beaucoup plus affirmées, enfin une langue complètement différente à certains endroits, mais c'est tout petit. Ouais. Et donc on se dit où est le parfum, où est-ce que, enfin on arrive parfois on se laisse faire complètement parce qu'en plus l'alexandrin vous le mettez de manière complètement organique, enfin on y reviendra de la façon que vous avez de la jouer, mais c'était ça en fait, ça nous surprend à un endroit où on se dit est-ce qu'on veut nous mettre dans un autre contexte ou pas, puisque en même temps la langue est totalement et complètement respectée.
Ouais, c'est très juste. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais je crois que Molière, on s'empare vraiment de la langue de Molière et on traduit les situations telles qu'il les a écrites, et c'est ça l'essentiel en fait. On est fidèle et aux situations, à la dramaturgie de Molière et à la structure de la pièce, à part la scène des portraits, tout est en place, tout est là, et on respecte les vers au maximum, les liaisons. Enfin, voilà, on est très exigeant sur la langue, parce que c'est la plus belle langue, de toute façon, pour parler de l'amour et de l'amitié. L'alexandrin et la pièce du Misanthrope.
Et vous qui faites partie de la compagnie, enfin du noyau central, d'où est venue cette envie finalement de non pas évidemment, c'est la question classique serait de dire mais pourquoi monter le Misanthrope aujourd'hui, etc. Et ne pas s'attaquer en tant que jeune compagnie à un auteur contemporain. Mais c'est vrai que d'où est venue l'envie tout simplement. Est-ce que c'était au fond les personnages ou quelque chose qui a été traversé par vous avant?
C'est plusieurs choses. C'est déjà la pièce, parce qu'elle est magnifique, simplement. Comme je l'ai dit, c'est la plus belle pièce pour parler de l'amitié, à mon avis, déjà. De l'amour aussi. Et après, il y a toute l'histoire autour du début du travail. C'est vrai qu'avec Thibaut, on a commencé à travailler au Conservatoire d'Avignon sur des scènes pour passer les concours, etc. Donc ça vient de très très loin. Il faisait Alceste, moi je faisais Philinte, et puis après moi j'ai fait Alceste, et puis lui il faisait Philinte. Enfin voilà, ça nous a accompagnés depuis très très longtemps.
Mais si vous auriez pu en avoir marre justement, avoir un rejet total de...
Je pense qu'on n'en a jamais marre, c'est inépuisable. Enfin c'est magnifique. Il y a tout et pour des années et des années de dramaturgie, de compréhension de l'enjeu de chacun et du moment de vie de chacun, parce que nous, on s'est vraiment attardé sur ça aussi, sur tous ces gens, parce qu'on veut pas trop parler de personnages pour s'éloigner aussi de la comédie de caractère. Ce que Molière a écrit, la prude Arsinoé, Alceste misanthrope, Philinte l'ami sincère. Non, pour nous, c'est des gens qui sont ancrés dans un moment de vie avec leurs préoccupations. Ils veulent énormément changer le regard que les gens, les autres protagonistes de la pièce, portent sur eux. Donc ils sont dans une nécessité de vie et dans un moment de vie particulier. Alceste n'est pas né misanthrope. Il est amoureux d'une femme, il est jaloux, et à partir d'un événement déclencheur, il s'engouffre dans une pensée misanthrope, mais parce que ça jaillit comme ça... En fait, il voudrait juste dire « j'aime ». En fait, il voudrait crier qu'il est amoureux de cette femme et qu'il n'y arrive pas.
Et vous surprenez en effet d'ailleurs le spectateur dans ses attentes de la pièce en donnant des nouvelles couleurs au personnage. Par exemple, vous pouvez du coup mieux nous parler du personnage de Philinte qui est l'ami fidèle, en effet l'ami sincère d'Alceste. Mais j'ai l'impression aussi quand j'ai vu votre pièce que peut-être qu'il pensait la même chose qu'Alceste mais qu'il n'arrivait pas à le dire et qu'il avait lui aussi envie de péter un câble quoi.
Oui.
Et ça, on ne voit pas obligatoirement dans d'autres mises en scène de Molière. Et là, c'est je vrai. L'ai plus ressenti.
C'est vrai. Mais ce qu'on se raconte, c'est que Philinte était ou est peut-être pire qu'Alceste dans cette volonté d'être intransigeant, de dire la vérité. Il a dû passer... Enfin, après, nous, c'est ce qu'on se raconte, parce qu'on a tissé une fiction qui est invisible, en fait, pour les spectateurs, mais qui est pour nous très précise. Quelle est la relation de chaque protagoniste par rapport aux autres? C'est-à-dire, quelle est la relation de Philinte et d'Alceste, de Philinte et de Célimène, de Philinte et d'Arsinoé? Je parle de Philinte parce que c'est le rôle que j'interprète, donc bon. Mais pour chacun, en fait. Comment.
C'est des choses que vous vous êtes racontées.
On s'est raconté, mais comme au cinéma, finalement. D'accord. On a tissé des liens invisibles, mais qui nous permettent de jouer et de jouer ouais, à l'essentiel, j'ai envie de dire. Et donc, oui, voilà, c'était pour aussi, encore une fois, s'éloigner de la comédie de caractère. Mais Philinte a peut-être vécu une dépression pendant 6 mois avant de revenir. Et puis là, il vient à cette soirée, il a envie d'être bien vu, il a envie de séduire, il a peut-être envie de retrouver du travail, il a différents enjeux qui ne sont pas écrits dans la pièce de Molière, mais qui étaient essentiels pour nous pour aller jouer et justement pour amener peut-être une nouvelle lecture de ces personnages. Plus dense.
Et du coup, vous êtes beaucoup renseigné en fait sur les mises en scène du misanthrope, au contraire, non, parce que vous vouliez pas justement.
Non,
c'était trop.
Non, c'est pas.
Tellement de gens qui sont attaqués à ça.
Ouais, et puis c'est pas comme ça qu'on travaille. Non, nous on a encore envie de s'y jeter pleinement avec ce qu'on est, avec nos préoccupations. Voilà, simplement.
Non mais c'est vrai que c'est amusant parce qu'il y a la misanthropie aujourd'hui est beaucoup associée au misanthrope de Molière, alors qu'en soi, c'est pas lui qui a inventé le terme. Et c'est là où il se passe quelque chose de différent dans le spectacle que vous proposez, puisqu'on ne parle plus, on ne parle plus du personnage du misanthrope, et évidemment de tous les autres, mais d'un personnage. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que la volonté était de sortir du stéréotype qu'on peut donner à ce personnage, ou de le rapprocher de vous, de nous, du temps qu'on est, enfin des trentenaires d'aujourd'hui finalement.
Oui, c'était plus ça, la volonté. Puis c'était surtout de partir aussi des acteurs. On est tous amis, on se connaît tous sur le plateau là. Oui. Donc c'est aussi de nous qu'on parle avec cette pièce. On parle vraiment de nos rapports. Dans cette petite troupe sur le plateau, il y a eu des amours, il y a eu des amis, il y a eu il y a un côté assez entre guillemets consanguin à ça. C'est ça surtout. On avait envie de parler de l'amitié. Et Thibaut Pernoud et moi, on connaît très bien l'amitié dans ce que c'est, puisqu'on est vraiment très proche, avec Marc Arnaud aussi, avec Guillaume Motte aussi, avec Chloé Chevalier, avec Aurore Paris, avec Eric Jacobia qui était notre professeur à Avignon et qui maintenant a intégré la troupe. C'était pour parler de nous essentiellement et de choses qu'on connaît, parce qu'on connaît ces choses-là.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Dans la programmation musicale d'Antoine Cadou cette semaine, vous découvrez l'album La Visite d'Antoine Jomet. On vient d'écouter Modern Jungle. Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Boliveau, qui est comédien et qui incarne le personnage de Philin dans le Misanthrope de Molière mis en scène par Thibaut Pernoux au Théâtre de la Bastille.
Alors on parlait... Non, on ne parlait pas d'ailleurs, je suis bête. Vous avez commencé, vous avez représenté une première version du spectacle dans une cour de château. Et c'est vrai qu'à la Bastille, vous avez présenté... Enfin, c'est un trifrontal. Donc, étant donné que le spectacle à l'origine n'est pas fait pour un théâtre, est-ce que finalement vous êtes un petit peu malheureux de jouer dans un théâtre ? C'était ma question.
Non, absolument pas.
Non, parce qu'on arrive... en fait, on arrive... Vous êtes, c'est ça dont vous parliez, voilà. Vous parliez de la fête. Donc, c'est vrai qu'on entre dans la salle. Il y a tout un univers de fête. On a l'impression d'arriver à une fête chez des potes. Les chips, le bar, le DJ là-haut. Et puis, ce trifrontal permet à nous de choisir où on se met, où on va se poser pour attendre qu'on vienne nous inviter à danser. Mais comme ça a été inventé en extérieur, et donc finalement, on peut voir une vidéo sur Internet où on a presque l'impression que vous avez surpris le spectateur en pleine fête. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, savoir si vous êtes malheureux, puisque là, comme on rentre dans un théâtre, on est presque averti de l'événement qui va se passer, qui va se produire.
Oui, mais c'est le même principe, en fait. Ça ne change pas énormément en extérieur et à l'intérieur. On l'a créé en 2012, donc dans la cour du château de Fargues, dans le sud de la France. On l'a repris après au théâtre de Vanves en janvier dernier. Et là, à la Bastille, mais ça reste un trifrontal. Le public est convoqué à l'action, au moment de vie. En fait, il est au même titre que les acteurs concernés par ce qui se passe sur le plateau, vu le dispositif. On joue très très proche des spectateurs, donc c'est vraiment pour les inclure dans la représentation aussi, et qu'ils soient partie prenante comme observateurs critiques de ce qui se passe sur le plateau.
C'était la volonté de placer les spectateurs comme ça,
oui,
au plus proche.
Oui, et puis aussi la volonté de casser un petit peu les corps du théâtre. On aurait mis ce spectacle en frontal avec des alexandrins. Tout de suite, on se serait mis 2-3 quarts pour dire bien au vert. Et puis ça fait dans l'espace des corps assez finalement figés et des corps dramatiques. Alors que là, non, on voulait que ça soit quotidien, que les mouvements soient fluides. Qu'on se balade, qu'on soit proche des gens, et voilà.
Ouais. Oui, parce que justement, vous baladez beaucoup, il y a plein d'endroits que vous utilisez oui. Sur le plateau, et pas sur le plateau justement, vous allez dans les escaliers, vous allez en hauteur, ou même derrière le régisseur, comment vous pensez en fait ça, à chaque théâtre, son dispositif singulier
Mais on adapte nos envies, le spectacle et le lieu du spectacle. On essaye que tout ça donne une cohésion et une force à ce qui est proposé. Et c'est un petit, une petite lubie de compagnie, mais c'est vrai qu'on travaille énormément comme ça. Partout où on va, on essaye de rendre le spectacle au mieux dans le lieu dans lequel on est accueilli et où on va jouer.
Vous êtes des trentenaires, mais vous êtes des enfants, en fait. Parce qu'on a,
exactement,
on a un peu l'impression que vous jouez avec tous les jouets que vous avez à
exactement.
Votre disposition.
Ouais, en plus, c'est la salle
du
haut.
Il y a une trappe, il monte là-haut dans la trappe.
C'est la salle du haut. À la Bastille, on se dit, c'est un petit peu la salle de jeu des enfants, la salle de jeu rêvée, finalement. Ouais, le grenier, avec tous les jouets à disposition. Et ouais, mais c'est vrai que c'est ludique et ça permet de renouveler l'écoute aussi pour le spectateur et de se sentir vraiment pris dans l'action. Et de participer à ce qui se passe sur le plateau.
Et ce qui permet aussi, il y a beaucoup, une vraie belle énergie aussi dans cette mise en scène avec le corps. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de corps et justement le fait que vous déplacez comme ça, en haut, en bas, etc. Et en disant les alexandrins toujours. Donc c'est pour en venir au fait, comment vous travaillez les alexandrins ? Est-ce que vous travaillez aussi avec le corps pour qu'on ait l'impression que ça soit aussi fluide ?
Non, pas forcément. Non, pas avec le corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on s'attarde vraiment à essayer de jouer les situations. C'est vrai que l'alexandrin, au départ, est une langue étrangère, avec toutes ces règles qu'il faut absolument. Enfin, nous, on tient à les respecter. Après, on aurait pu faire le choix de travailler sur une autre école. Là, on travaille avec François Regnault, qui est une école particulière où tout doit être dit, où chaque liaison doit être là, etc. Donc c'est une contrainte, mais qui donne une force au comédien, puisqu'il y a une règle, la règle du jeu. Et dans Grenier, ben faut jouer avec cette règle-là. Voilà, mais ça donne, c'est une contrainte qui donne de la force au jeu et de la puissance à ce qui est dit, en fait, je pense.
Oui, pour une meilleure compréhension pour le spectateur, je pense. Parce que comme vous l'avez bien digéré, mâché, oui, etc., nous, après, ça paraît tout à fait fluide. Même s'il y a des mots, peut-être, qui nous échappent de la, oui, langue de Molière, on comprend, en fait, le sens.
Ah ben, c'est super.
Mais à votre avis, toutes ces règles, elles viennent... Toutes ces règles de François Regnault, justement...
Ou d'autres.
Oui, ou d'autres.
Est-ce que,
finalement, à votre avis, hein, je ne demande pas une question encyclopédique, mais est-ce qu'elles viennent... elles ont été dites par l'auteur pour finalement que les intentions pour l'acteur soient d'une évidence absolue, puis qu'il n'ait presque rien à jouer, puisqu'il suffit de respecter les règles, ou est-ce qu'elles sont venues avec le temps, des règles qui sont venues, enfin, elles viennent d'où à votre avis toutes ces règles?
Absolument, ouais. Ouais, je suis absolument pas spécialiste du vers. Moi, je l'ai étudié à l'école, mais c'est la première fois que je joue une pièce en alexandrin. Donc je découvre aussi, et c'est pour ça que je parle aussi de langue étrangère, parce que pour moi c'était vraiment ça au départ. Et non, je crois que c'est ce qui se dit en fait qui est important. C'est comment, qu'est-ce que nous dit l'autre, comment on l'écoute et comment on peut rebondir sur ce qu'on vient d'entendre et comment on a envie de mettre de soi à l'intérieur de la réplique en fait. Et...
Mais pourtant vous avez respecté ces règles-là.
Ah oui, mais ouais, ces règles, il faut les respecter, sinon on n'entend pas grand-chose. Hein.
Ah, quand l'alexandrin, c'est ça ma question en fait.
Bah, non, sinon, non, quand il manque des pieds par exemple, il n'y a pas d'unité de vers et là, bah, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et si jamais dans une équipe, certains ne font pas les liaisons et d'autres les font, mais c'est complètement anarchique. Et du coup, c'est dur de transmettre la pensée et l'intention quand il n'y a pas de structure commune pour un texte. Mais comme le théâtre contemporain, finalement, chaque langue a ses contraintes. Et je pense à des auteurs comme Gabili ou des choses comme ça, où il faut s'y atteler quand même. Enfin, c'est
comme une ponctuation plus poussée presque.
Ouais, on peut dire ça comme ça.
Non, mais je sais pas, j'essaie de faire comprendre un peu.
Si, c'est ça, c'est oui, une ponctuation plus poussée. C'est une structure d'écriture, en fait.
Qui ne vous annule pas dans...
Non, c'est une force.
Dans votre position. Ah oui.
Non, c'est une force, on s'en sert pour transmettre ce qu'on a à transmettre au partenaire.
Au spectateur.
Et au spectateur, par le biais du partenaire.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui viennent ou pas?
Oui, énormément.
Ouais. Des représentations scolaires et des discussions avec, avec eux. Ils ont étudié ou pas avant?
Certains, pas tous. On a des rencontres parfois en amont, parfois après le spectacle. Mais oui, on a la chance d'avoir des jeunes quasi tous les soirs. Et pour nous, c'est un bonheur qu'ils puissent découvrir la langue de Molière par ce biais-là. En fait, ils s'y retrouvent. On est habillés comme eux. C'est la musique qu'ils écoutent. Enfin voilà, ils se reconnaissent là-dedans et du coup, ils participent et ils écoutent pleinement ce qui se passe puisqu'ils se sentent concernés.
Donc vous avez eu des retours, enfin vous les
avez. Ah oui, on a beaucoup. On a des rencontres bord plateau après avec.
Et alors ils vous disent quoi, vous savez?
Bah ils adorent.
Ouais. Non, mais c'est pas forcément la vie, mais c'est vrai que ça doit peut-être. Est-ce qu'ils ont envie de venir davantage au théâtre?
Ils n'ont pas l'impression d'être au théâtre, c'est ça qui est bien.
Ah.
C'est que c'est pas l'image du théâtre traditionnel, c'est pas ce qu'ils ont dans la tête quand on leur évoque le mot théâtre, le trifrontal déjà. C'est un dispositif qui les captive, à mon avis, parce qu'ils sont super proches des comédiens et ils sont intégrés dans le spectacle. Il y a une écoute vraiment superbe. Enfin, ouais, je pense que ça les...
Et ils arrivent à entendre les enjeux, etc.
Ouais, ils comprennent tout.
Ils comprennent
vraiment
tout.
Ils comprennent tout.
Ouais, mais ça se sent. Enfin, vendredi, quand on y était avec Chloé, il y avait des jeunes. Et justement, il y avait une écoute super belle. Alors, moi, j'ai appelé ça quadrifrontal, parce que mais c'est trifrontal,
ouais.
L'espace.
D'accord. C'est
ouais. Ok. Donc, il y a des gens à droite.
Il y a des gens face à face, gradin, face, et sur un côté, à court.
Voilà, à court. Et ils pouvaient se voir aussi, les jeunes.
Oui, ils s'étaient répartis. Il y avait un groupe, à mon avis, qui s'était réparti dans la salle.
Voilà. Et c'était intéressant parce qu'ils se regardaient, mais ils ne pouvaient pas de rire non plus pendant tout le spectacle. Ils étaient vraiment à l'écoute des comédiens et c'était très beau.
Ouais, je pense que ce dispositif permet ça, ouais. Et puis, Et puis c'est un peu le théâtre à son origine. Les gens venaient au théâtre pour se montrer, pour être vus aussi. Donc ce dispositif permet ça. On vient aussi au théâtre
pour être vu.
Pour être vu.
Mmh. Et, c'est la voilà. cour du 21e.
C'est la cour.
Bah, merci.
Et merci à vous.
Mathieu Boliveau, on va rappeler donc que vous incarnez le personnage de Philinte dans Le Misanthrope de Molière, qui est mis en scène par la compagnie Cobalt, plus précisément cette fois-ci par Thibaut Pernoud, et donc ça se joue au Théâtre de la Bastille jusqu'au 20 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler.
Merci à vous.
Alors on continue dans la programmation musicale d'Antoine Cadou. On me signale qu'il s'agit donc de l'album La Visite d'Étienne, et non pas Antoine Jomet. Et on écoute à présent Midnight Man.
Thank you.
Alors ce soir, nous allons vous lire un extrait d'un texte de Clémence Weil qui s'appelle « Pierre, ciseaux, papier » qui est édité aux éditions théâtrales. Et en fait, ce texte a eu un beau parcours assez particulier parce qu'en fait, il a été lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre et donc publié par les éditions théâtrales à cette occasion. Et il a eu, il y a quelques jours, le Grand Prix de littérature dramatique 2014, qui est assez rare pour une jeune auteure de 30 ans. Nous allons vous lire la scène 2. Scène 2. Une chambre. Le jeune homme. La femme.
Il va être trop tard.
Je pensais pas que t'étais du genre à avoir un emploi du temps.
Non, je ne crois pas que le temps s'emploie.
Où est-ce que tu vas ?
Je le saurai quand j'y arriverai.
Tu parles toujours en énigme ?
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Tu ne réponds jamais aux questions.
À quelles questions je n'ai pas répondu ?
Pourquoi tu pars ?
Oh, aucune réponse réelle ne te satisfera.
Tu crois savoir ce que je veux ? Tu crois que tu connais toutes les femmes ? Tu crois que toutes les femmes sont pareilles ? La femme !
Je n'ai pas dit ça.
Tu crois que t'as le beau rôle, hein, que tu es le plus fort parce que tu t'en vas ? Parce que tu te rhabilles le plus vite.
Je te trouve très belle.
Merci. Non, c'est pas le sujet. Réponds à pourquoi tu t'en vas. Dis la vérité, je mourrai pas.
Pourquoi es-tu si sûre qu'il y a une raison ?
Parce qu'il y a toujours une raison. On ne fait rien sans raison. Ou alors on fait n'importe quoi. Tu dis des phrases et après tu peux disparaître ? Tu crois que ça n'a aucune conséquence, une phrase ?
Je n'ai rien promis.
Je ne te demande rien.
Tu me poses des questions ?
J'ai pas le droit.
Tu lis moi. Je ne t'ai pas forcé à me suivre. Tu n'avais pas l'air de te plaindre il y a 10 minutes.
Ah, je ne me plains pas. Tu ne m'as forcé à rien. C'est ce que tu voudrais ? Que je dise quel salaud ?
Tu peux me traiter de salaud si tu veux.
Mais non, je le pense pas. Pourquoi je dirais ça ?
Prends soin de toi.
On ne se reverra pas.
La vie n'emprunte pas de chemin définitif.
Tu te laisses des portes ouvertes, toi, c'est ça ? Au cas où ? Ne pas froisser, ne pas trop se mouiller. Les autres peuvent toujours servir. Si tu décides de claquer des doigts les femmes, moi, on surgit toutes comme des connes obéissantes.
J'ai jamais dit ça.
Non, c'est moi qui le dis.
J'ai pas le goût du mélodrame.
On peut pas parler, en fait. Tu es tellement au-dessus. Les pauvres gens couverts de sentiments, ils sont tellement médiocres.
Tu parlais pas autant avant qu'on fasse l'amour.
On a fait l'amour ?
Regarde autour de toi. Il me semble bien, oui.
Tu appellerais ça comme ça. On a fait l'amour, pas couché, pas baisé.
Je pense qu'on a fait l'amour.
Moi aussi.
Je vais y aller. Tu devrais te rhabiller, il est presque 15h.
Déjà. Je décale mon rendez-vous, tu reviens ?
Tu dois y aller, habille-toi.
Et je peux pas aller bosser maintenant. Je ne peux pas, physiquement. M'asseoir à un bureau, taper à l'ordinateur, donner des ordres, rester sur une chaise à regarder la fenêtre, même pas par la fenêtre. Je ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté. Je passe mes journées à fixer les carreaux, les traces sur la vie, tout ce qui l'empêche d'être transparente, tout ce qui montre que c'est un mensonge, un échec, tout ce qui parasite, tout ce qu'il faudrait gommer, pulvériser, tout ce qu'il faudrait virer. Je ne peux pas retourner au bureau et contempler ce qu'il y a à virer. Il faut... Reviens et puis tu partiras. Bien, mais reviens avant.
Ce n'est pas une bonne idée.
Pour qui ? Tu partiras dans 15 minutes, ça ne changerait rien pour toi. Et pour moi, c'est mon affaire. Viens. Je ne peux pas aller m'asseoir à un bureau dans cet état, tu ne comprends pas ? Les écrans d'ordinateur, les téléphones, toutes les conneries, les bips, tous ces machins en plastique qui m'appellent, je n'en peux plus. Ils me rendent cinglée, j'ai besoin d'un corps, j'ai besoin de vie à l'intérieur. Jamais, jamais je n'ai eu faim comme ça de quelqu'un. Je pourrais te bouffer. Je te garderai en moi, je t'utiliserai quand je voudrais, je ne ferai plus que ça, je passerai mes journées à me servir de toi. Je ne savais pas que je pouvais ressentir ça, je ne veux pas que tu me parles, je me fous de tes mystères, la poésie, tes projets, ta vie, tes rêves, ton histoire, ça ne m'excite pas. Je veux 15 minutes, ton corps.
Et après ?
Pas d'après.
On va pas se tuer quand même.
Surtout pas.
Tant mieux.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Et c'est maintenant l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors, on va parler ce soir de Dans la République du Bonheur de Martine Krimp, mis en scène par Élise Vigée et Martial Ifonzobo au Théâtre National de Chaillot, de Tempus Fugit, un spectacle du Cirque Plume sous le chapiteau de la Villette. Et on commence tout de suite avec Gertrude d'après Hjalmar Söderberg. C'est mis en scène par Jean-Pierre Barraud, c'est au Montfort jusqu'au 13 décembre, et c'est Magali qui nous en parle.
Oui, donc le metteur en scène Jean-Pierre Barraud adapte un texte de Söderberg, auteur scandinave peu connu en France, qui a écrit Gertrude, Gertrude ou Gertrude, je n'arrive jamais
ils disent Gertrude
à prononcer.
Pendant ce spectacle.
Gertrude, voilà, en 1906. Gertrude, donc, cette pièce met en avant la parole et les sentiments d'une femme. La pièce est éponyme, donc le personnage de la femme s'appelle aussi Gertrude. C'est une cantatrice très douée, une femme intelligente, passionnée, qui semble s'ennuyer assez dans sa vie et qui n'aspire qu'à l'amour absolu, sincère et brûlant. Et ce beau personnage de femme se retrouve au milieu de son mari, homme politique, de son amant musicien et de son ancien amour écrivain qui revient en ville pour une commémoration en son honneur. Mais aucun des trois ne parvient à assouvir ce désir d'amour utopique, si bien qu'elle finira par choisir la solitude. Chacun des hommes semble être pourri par l'ambition politique ou artistique et ne semble même plus pouvoir être sincère dans leurs échanges ou alors ils ne parviennent pas à se comprendre, que ça soit en société ou intimement. Et un des personnages d'ailleurs pose la question, mais quand parlerons-nous la même langue ? Moi j'ai été assez étonnée que cette pièce soit écrite au début du XXe siècle, je la pensais plus récente, ce qui reflète aussi le côté atemporel de la pièce, à la fois donc par son écriture mais aussi par la scénographie. Sur le plateau, pour moi il y a quelque chose... On ne sait pas où, on ne sait pas quand c'est, on ne sait pas vraiment où c'est. On a l'impression d'un studio cinématographique avec des accessoires un peu morcelés qui suggèrent des lieux. Il y a des projecteurs cinématographiques, un bureau, un lustre, un piano, un cadre de scène qui avance et recule et qui est recouvert de craie que deux jeunes techniciens viennent dépoussiérer avec des balais, faisant découvrir aux spectateurs sous la craie des miroirs. Miroirs donc bien sûr de la société à la fois intime et politique où on ne cesse de se regarder et de regarder l'autre. Et pour moi c'était vraiment des moments assez beaux. En fait ça arrive deux fois dans la pièce et je regardais plus les comédiens mais les balayeurs tout en écoutant la voix des comédiens. Pour moi c'était vraiment un moment de méditation esthétique. Il y en avait d'autres dans le spectacle, par exemple lorsque l'amant musicien et Gertrude sont seuls au piano sur le plateau, donc il y a juste le piano, Gertrude et le comédien de dos qui jouent et ils sont entourés de plumes blanches qui volent autour d'eux. Ça c'est vraiment des images qui m'ont marqué, ou encore la première scène où Gertrude est en robe de soirée, elle chante désespérément un air de Puccini et en fait c'est la voix de la Callas qu'on entend. Donc Jean-Pierre Barrault ponctue sa mise en scène de fragments subtils, je trouve poétiques et esthétiques, qui nourrissent aussi les personnages de la pièce et notre compréhension de la pièce. Cécile Coustiat, qui joue Gertrude, est assez étonnante. Elle reflète vraiment la force et la fragilité du personnage. Après, j'ai trouvé que malheureusement, ses partenaires de jeu étaient plus inégaux et pouvaient desservir le texte en surjouant des hommes un peu trop ambitieux ou sauvages dans leurs sentiments. Mais voilà, moi, il me reste vraiment un souvenir comme un rêve de cette pièce. Et puis aussi une belle découverte d'un texte où le rôle de la femme n'est pas assujetti à ses rôles habituels. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée.
C'est un spectacle que j'ai vu avec toi et qui, moi aussi, m'a non seulement intéressé, mais m'a également plu. Je pense qu'il y a eu un moment, pendant la représentation, où je me suis dit que c'était un spectacle qui était misogyne. Et finalement, je ne le pense pas. Je pense que c'est plutôt un spectacle misant, dans le sens où la part belle est vraiment faite aux femmes, dans le sens où Gertrude est un véritable personnage, profond, précis, réel, ce qui n'est pas forcément le cas des trois hommes qui, à la réflexion, me paraissent être un peu des archétypes. Et en soi, d'avoir une construction dramaturgique ainsi, avec un personnage très réel, autour duquel gravitent trois satellites qui, eux, sont plus grossièrement esquissés dans leur mode de pensée, dans leur fonctionnement, dans leurs actions, dans leur motivation, je trouve que c'est quelque chose d'effectivement très très moderne dans l'écriture. Et je suis comme toi, j'ai vraiment été très surpris de découvrir que donc ce dramaturge, Hjalmar Söderberg, que je ne connaissais pas, avait écrit cette pièce il y a une centaine d'années, alors que dans Gertrude résonnent des interrogations sur le rapport à l'autre, sur le couple, qui sont éminemment modernes et qui sont des interrogations qui, de mon point de vue, résonnent énormément avec le XXIe siècle dans lequel nous sommes actuellement et dans lequel nous évoluons. Donc c'est Gertrude, D'après Jalmar Söderberg, c'est mis en scène par Jean-Pierre Barrault, au Montfort jusqu'au 13 décembre, et on continue tout de suite avec Tempus Fugit, un spectacle du Cirque Plume sous le chapiteau de la Villette, et c'est Chloé qui nous en parle.
Oui, alors au début j'ai eu un peu peur à cause du titre Tempus Fugit, en latin ça veut dire le temps fuit, et la suite du titre c'est le temps, donc le temps fuit, une balade sur le chemin perdu. Alors j'ai eu peur en fait d'assister à un spectacle très nostalgique et mélancolique, très voilà, ça fait 30 ans, on arrête. En plus, on avait un plateau très intimiste, très épuré, avec des éléments de décor assez simples, mais en même temps chargés d'histoire, notamment un piano suspendu recouvert de poussière. On avait ça, on avait Pierre Cudelac, le directeur artistique de la compagnie, qui faisait parfois des apartés pour expliquer pourquoi il avait choisi la vie de saltimbanque plutôt que celle de l'usine. À la fin, il y avait une espèce de une ligne comme ça, de grosses boules en verre suspendues, éclairées, qui se balançait comme et formant une danse très hypnotique, c'était assez impressionnant, et on avait tous les circassiens qui se mettaient autour et qui aussi contemplaient cette danse du verre, je sais pas comment on pourrait le dire. En plus de ça, il y avait un côté un peu medley, c'est vrai, comme un peu medley de tous leurs spectacles, avec une succession de leurs meilleurs numéros, sans vraiment de fil conducteur. Donc, je savais pas trop, enfin, quelle était finalement la dramaturgie du spectacle, la genèse et l'envie de partager. Et en même temps, ça renvoyait un peu comme s'ils étaient arrivés au bout de quelque chose, que leur compagnie avait un peu vieilli, ou du moins qu'elle était en train de s'essouffler. Et en même temps, on pouvait y lire tout le contraire, et ça notamment grâce à leurs clowns. Des clowns bien plus présents que dans la plupart des spectacles de cirque, bien plus beaux physiquement d'ailleurs. Avec des...
Ils ressemblent à quoi ?
Ah bah, ils sont très beaux. Ils sont très beaux, ils ont des abdos plaquettes de chocolat à mourir, plutôt jeunes. Non mais d'habitude, le clown est quand même l'archétype du vieux qui rate tout. Et bah là, pas du tout, ils étaient assez beaux gosses. Et voilà, bref, pas seulement là pour faire patienter le spectateur lors d'un changement de décor. Ils avaient une vraie présence, et je dirais même que c'est eux qui donnent finalement le ton du spectacle. Le clown, donc, c'est d'habitude celui qui essaie de faire comme les autres acrobates, mais qui n'y arrive pas. C'est un peu la tragédie, la tragédie du cirque, le clown. Sauf qu'au Cirque Plume, le clown finit par être aussi bon que l'acrobate, en passant par un nombre évidemment incalculable de chutes, mais il finit toujours par y arriver. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, le cirque est... particulièrement au Cirque Plume, permet de croire qu'en fait on a de la magie en nous. S'il y a des gens qui arrivent à faire des choses incroyables avec la même chose que nous, c'est-à-dire un corps, des mains et une tête, c'est qu'il faut beaucoup de travail, c'est sûr, mais que c'est possible. Quand on va au cirque, en fait, je pense qu'on se dit que c'est possible. Je dis ça parce que pendant le spectacle, je me posais aussi la question de pourquoi on a toujours, à chaque fois, peur que la fille tombe de son trapèze, de sa corde ou de son fil. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'inconscient qui fait qu'on ne peut pas croire à l'incroyable, qu'on est organiquement programmé à penser que la fille va tomber. Et le cirque est presque, je pense, en tout cas le Cirque Plume, une religion en cela. Elle ne tombe pas et on y trouve une certaine foi. Voilà.
Donc, Tempus Fugit, un spectacle du Cirque Plume sous le chapiteau de la Villette jusqu'au 28 décembre. Et on termine avec Dans la République du Bonheur de Martine Krimp. C'est mis en scène par Élise Vigier et Martial Ifonzobo. Et je dois avouer que pour moi, c'est toujours un peu un événement que d'aller assister à un spectacle dans la grande salle Jean Villard du Théâtre National de Chaillot. Et ça l'était d'autant plus pour assister à cette nouvelle création du Théâtre des Lucioles. La précédente mise en scène de Martial Ifonzobo, une femme, présentée la saison dernière au Théâtre de la Colline, m'avait laissé un souvenir mitigé, tant je n'y retrouvais pas le sens du collectif qui caractérise, de mon point de vue, son travail au sein du Théâtre des Lucioles. Dans une femme, tout tournait autour d'une interprète exceptionnelle, Catherine Yégel, mais seule, et j'y avais un peu vu pour le metteur en scène un spectacle de transition, après un long compagnonnage avec le dramaturge Raphaël Spregelburn. Pour se frotter pour la première fois à Martine Krimp, le metteur en scène argentin retrouve sa complice Élise Vigier à la mise en scène. Et c'est toute la démesure de ce collectif hors norme qu'est le Théâtre des Lucioles qui retrouve toute sa vigueur sur ce grand plateau de Chaillot. Et cette rencontre entre cette écriture et ce collectif, eh bien, il est étonnant qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. Avec d'autres pièces de Martine Krimp, tant dans leur grande majorité, elle se prête bien à cet univers déglingué qu'affectionnent les Lucioles. La première scène de cette République du Bonheur est en cela exemplaire, avec son repas de Noël, où la famille se déchire sans vraiment se déchirer, mais où chacun met à jour ses dysfonctionnements et ses errances. De la très jeune fille déjà enceinte, au grand-père qui perd la tête, en passant par l'irruption de l'oncle, incarné par Marcial Di Fonzobo lui-même, qui fait tout voler en éclats. Dans ce premier tableau, Martin Krim comme Marcial Di Fonzobo sont en terrain connu. Mais c'est une nouvelle voie, une nouvelle direction que les deux artistes empruntent ensuite. L'intérieur bourgeois avec sapin de Noël cède la place à un plateau nu, dont le fond, tapissé de miroirs, contribue à la dimension vertigineuse. On bascule dans un autre univers, plus abstrait peut-être, mais plus revendicatif certainement. Dans cette république du bonheur, c'est le sens du mot même qui est interrogé. Dans une effervescence qui emprunte aussi bien la comédie musicale qu'à la performance, cette pièce interroge sur le monde dans lequel nous vivons, sur les injonctions qui nous sont formulées, sur le sens que nous donnons, ou pouvons donner, à nos actions, à nos pensées et à notre vie. Assurément déjanté et méprisé, et maîtrisé, pardon, ce spectacle m'a complètement rassuré sur le travail de Marcial Di Fonzobo. Avec cette première création d'un texte de Martin Krim, eh bien le théâtre des Lucioles ébahit, amuse et interpelle brillamment. Donc c'est dans la République du Bonheur de Martin Krim, mis en scène par Élise Vigier et Marcial Di Fonzobo, et c'était au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 30 novembre, mais ça va tourner un petit peu partout en France. On arrive à la fin de cette émission. Alors je vous rappelle que nous avons reçu ce soir un représentant de la compagnie Cobalt, Mathieu Boiliveau, qui est comédien, et mais parfois metteur en scène, mais qui là cette fois-ci incarné le personnage de Philinte dans le Misanthrope de Molière. C'est mis en scène par Thibaut Pernou, ça se joue au Théâtre de la Bastille jusqu'au 20 décembre. Nous vous avons proposé un petit moment de création radiophonique, c'était une lecture d'extrait du texte de Clémence Veil, qui est récemment lauréate du Grand Prix de littérature dramatique, avec pierre, ciseaux et papier. Dans notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous avons parlé ce soir de Gertrude, d'après Hjalmar Söderberg, une mise en scène de Jean-Pierre Barrault au Montfort jusqu'au 13 décembre, de Tempus Fugit, un spectacle du Cirque Plume sous le chapiteau de la Villette jusqu'au 28 décembre, et on en parle à l'instant dans La République du Bonheur de Martin Krim, mis en scène par Élise Vigier et Marcial Di Fonzobo au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 30 novembre. Alors cette émission a été présentée par Xavier Henry, préparée cette semaine par Makeli Kiapel-Nukesi avec la complicité de Chloé de Broca, une émission réalisée par Antoine Cadou. Naturellement, vous pouvez retrouver les podcasts ou la balado-diffusion pour faire plaisir à l'Académie française sur la page de Pièces Détachées sur radiocampusparis.org. J'aperçois nos amis du Gonzaï Club. On n'est pas trop porteurs cette fois-ci.
On est vraiment déçus, on est déçus. Ouais,
vous êtes humiliés, les gars. Pourquoi j'ai dit Gonzaï Club?
Parce qu'on a la même
bogositude. La fatigue. C'est la fin de l'année. Ouais. Pardonnez-moi.
On va dire ça.
On peut pas, ça va.
Il n'y a pas de souci. Oui, donc ce soir dans Yomi, on va passer du garage grec. On va aller en Grèce, voir ce que ça donne. C'est assez marrant, ils font des trucs chouettes. Et on va aussi passer de la musique minimaliste. Alors, je ne sais pas ce que c'est.
Du punk minimaliste. C'est un mélange entre minimaliste et nihiliste. C'est un mot valise qu'on a créé dans Yomi. En fait, c'est un peu, tu vois, on est un peu à l'image de l'Académie française, nous aussi.
C'est bien, nous aussi, de temps en temps, on crée des concepts. Mais, et ça vient d'où, ça?
Je sais pas.
Il faut écouter l'émission pour s'en rendre compte.
Évidemment, je savais que c'était ça que vous alliez répondre. Donc, bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris, en compagnie de nos camarades de Yumi. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous. You sure know how to make a man feel like a jerk.